Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de ArchiPro. ArchiPro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développée par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire.
Il fallait cette formation en plus là pour la suite de ma carrière. Et comme je le dis toujours, ce métier qu'on exerce, si tu n'as pas la passion, tu peux pas le faire.
Hello, bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. Ici Alama Dogo. Aujourd'hui, je suis avec Aïdara Issoufou pour ce deuxième épisode. Nous discutons des différents métiers qu'il a eu à exercer depuis sa sortie de l'école d'ingénieur en 2014. Aïdara nous raconte les différentes attributions et responsabilités d'un ingénieur travaux sur un chantier de construction de bâtiments. De la planification du chantier dans son ensemble, au contrôle des travaux en cours en passant par la supervision et la coordination des différentes équipes, il nous explique tout. Après ce point de discussion, nous avons longuement parlé de l'étude des prix dans le cadre des travaux routiers, du déboursé sec par tâche élémentaire à l'offre de l'entreprise, suivi de la budgétisation du chantier avant son démarrage et le contrôle du dit budget en phase des travaux. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de cet épisode afin de découvrir une autre facette de ce domaine. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de commenter, d'en parler autour de vous et de noter 5 étoiles le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour Issoufou.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Super, super bien.
D'accord. Je suis heureux de te retrouver sur ce deuxième épisode du podcast. J'espère que le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on parlera de ton parcours, tout ce que tu as eu à faire depuis que tu es sorti de l'école jusqu'à présent. Donc, avant, il faut déjà te présenter pour que les auditeurs sachent qui est Issoufou Aïdara.
D'accord, je suis... bon, à l'état civil, c'est Aïdara Issoufou. Je suis ingénieur de travaux publics. J'ai fait mes études primaires le collège à Mayakro. Après, j'ai fait le lycée à Daoukro. J'ai eu mon bac C pour... On me retrouvait à l'INP. Voilà. Okay. Il a fait l'école préparatoire 2008 jusqu'en 2011. Et puis j'ai intégré le corps supérieur des travaux publics en tant qu'élève ingénieur des travaux publics. Ah, c'est en 2014, je suis sorti ingénieur des travaux publics, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à travailler. Voilà. Et j'ai fait 2 ans, ouais, c'est ça, 2014, non. Ouais, j'ai fait 2 ans, 1 an, 6 mois, plutôt, en tant que, ingénieur, travaux, chez deux entreprises. Donc, voilà un peu brièvement, avant de me retrouver là aujourd'hui, où je suis. Maintenant, après, peut-être avec les questions au fur et à mesure, je pourrais donner plus de détails.
Il n'y a pas de souci. Ben, pour la première question, d'accord, parlant de questions, j'aimerais savoir pourquoi ce choix. Pourquoi le génie civil?
Bon, le génie civil, à vrai dire, quand j'étais encore au collège, au lycée, c'était même pas dans mon programme.
Ah bon?
Et quand je partais à l'INP, ouais, quand je suis parti à l'INP, bon, je ne suis pas comme les autres qui étaient fascinés par les engins.
L'INP, pour les gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, c'est l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny.
C'est l'une des meilleures écoles publiques de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Donc, c'est
Ça.
juste pour les gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, en fait. Ouais.
Ok. Et donc, quand j'ai rentré à l'INPHB, là, c'était pas vraiment pour faire les génies civils. Pour moi, c'était pour faire les moteurs ou autre. Et bon, c'est en côtoyant des aînés, des parrains.
Oui.
Les parrains, c'est les devanciers, là, à
OK.
l'école. Et qui m'ont donné des conseils. Et puis, j'ai vu, en fait, les débouchés qu'on avait à l'issue de la formation. Et donc, j'ai voulu intégrer l'école supérieure des travaux publics. Et voilà, c'est dans ça que j'ai. Enfin, c'est là où on a commencé à aimer le génie civil et puis on a commencé à le pratiquer.
D'accord. Donc, dès que tu sors de l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu intègres une entreprise qui fait quoi comme travaux de génie civil?
Bon, j'intègre une entreprise de construction, enfin, qui avait en charge la construction du chute d'engrais. Enfin, ce qu'ils appellent, ils appellent actuellement le nouveau chute d'engrais.
D'accord.
Et j'avais comme fonction là-bas, enfin, j'exerçais comme étant ingénieur de travaux. Et j'avais en charge la construction de deux duplex R plus 1. Voilà. Deux villas R plus 1 qui devraient abriter les médecins, qui devraient servir de logement aux médecins.
D'accord, c'est-à-dire
Voilà.
sur le chantier du CHU d'engrais, il y a les différents bâtiments attribués aux différents services du CHU, et puis il y avait aussi des logements. Et toi,
C'est
tu étais
ça.
en charge de la construction de deux R plus 1 qui étaient destinés au logement des médecins. D'accord,
Ça,
et ça se
exactement.
passait comment? C'était quoi ton rôle en tant qu'ingénieur des travaux? Qu'est-ce que tu faisais dans le quotidien?
Le quotidien, c'était la planification de mes travaux, le suivi des travaux, l'organisation, la gestion du personnel et de matériel. C'était ça. Et puis, bon, l'aspect technique, c'est de faire, comme je l'ai dit, le suivi pour voir si on est conforme au plan ou non. S'il y a des difficultés, c'est de remonter. Si je ne peux pas les résoudre, c'est de remonter l'information à mon supérieur hiérarchique,
D'accord.
qui était un peu, en même temps le DG de la structure. Voilà.
Donc, en parlant de planification, ça consiste à quoi exactement? Tu es ingénieur des travaux sur un chantier, tu as un
Après.
bâtiment, tu dois faire de la planification. Tu fais quoi?
Bon, la planification, déjà, avant de parler de planification, il faut que d'abord je définisse ce que j'ai à faire.
D'accord.
Les travaux que j'ai à faire, mais comme on le dit, les travaux ne se font pas en même temps, c'est dans le temps, c'est pas étape par étape. Comme dans le bâtiment, il y a la fondation, après la fondation, l'infrastructure et puis la superstructure. Et donc, pouvoir anticiper sur d'éventuelles difficultés, et prendre des dispositions. On fait une planification de toutes ces différentes étapes-là et voir un peu le matériel dont on a besoin ainsi que les ressources humaines dont on a besoin, qui se fait dans le temps. Voilà, donc on avait fait on faisait cette planification-là dans ce but-là, quoi.
OK. Et la gestion du personnel, tu as parlé de ça tout à l'heure.
Oui, la gestion du personnel, c'est d'être en contact avec les personnes qui sont sous notre charge, les ouvriers, les techniciens, les manœuvres, pour voir un peu si ça va déjà, enfin, pour le contrôler, pour voir s'ils maîtrisent déjà le projet, s'ils comprennent le projet,
Disons les
leur
tâches
apporter
qu'ils ont
mon
à faire.
soutien,
Parce que
la tâche qu'ils
je
ont à
me dis
faire,
qu'un
oui.
ouvrier n'a pas besoin de comprendre obligatoirement le projet, mais faut qu'il sache faire ce qu'on lui demande, quoi.
Oui, il y a ça. Mais il faut qu'il comprenne un peu.
D'accord.
Il faut qu'il comprenne un peu. Voilà. Comme ça, lui aussi peut apporter des
Si,
solutions,
bien sûr.
éventuellement. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et puis, anticiper aussi sur les besoins en personnel. C'est-à-dire, si tu sais que tu as besoin d'un coffret dans 1 ou 2 semaines, il faut déjà préparer la demande, chercher de manager en question ou bien l'équipe en question. Pour se préparer, quoi, dans ce sens-là. Et puis, les matériels et matériels dont tu auras besoin pour l'exercice de sa tâche.
D'accord, c'est-à-dire que c'est pas toi-même qui les cherches, mais toi tu fais juste une demande que tu transmets à la hiérarchie qui va se charger de te mettre quelqu'un à disposition au moment opportun.
Mais c'était deux cas. Soit il cherche, il n'en trouve pas, il me disait d'en chercher aussi de mon côté. Voilà.
D'accord.
Je soumets le besoin, une fois que le besoin est
Oui.
validé, on dit, bon, on cherche ensemble. Elle dit que la hiérarchie cherche ce que moi je cherche. Et après, on regarde c'est l'équipe qui nous arrange bien, l'option qui nous arrange pas.
D'accord. Et sur ce chantier, tu as fait combien de temps?
J'ai fait 8 mois, je crois, 8 mois, ouais. J'ai fait 8 mois avant qu'une autre entreprise me débauche. Bon, heureusement, là-bas, j'avais fini le gros œuf. J'ai tenu à terminer ce projet, puisque c'était mon premier projet après l'école.
D'accord.
J'ai terminé le, j'ai même fait le, j'ai même commencé le second œuf. Il restait que le carrelage, je pense que, ouais, c'est ça. J'ai fait tout ce qui est plomberie, électricité, carrelage à l'intérieur.
Une petite
Même à
précision
l'extérieur,
hein,
j'avais
pour
commencé.
ceux qui les auditeurs qui ne seront pas du domaine. Le bâtiment, c'est divisé en deux grandes parties en griffes. On a le gros œuvre qui concerne tout ce qui est béton, agglo, ainsi de suite. Et puis après, on a le second œuvre qui concerne tout ce qui est plomberie, peinture, menuiserie, ainsi de suite. Donc, tu disais que tu avais fini le gros œuvre, tu étais en phase de second œuvre, c'est ça?
C'est ça, c'est
D'accord.
ça.
Et dans le second œuvre, tu as eu
Et
affaire
j'étais
quoi
parti moi là.
exactement? Parce que j'imagine que le second œuvre, il y a beaucoup de parties qui se font en même temps.
Oui, c'est ça. Dans la seconde, c'était, j'ai suivi l'électricité. Il fallait voir les plans de l'électricité, contrôler ce que l'électricien fait. Et là, j'ai appris en même temps sur le temps, enfin, en nous informer sur ça, mais après, de façon pratique, sur le terrain qu'on comprend
Ouais, je
mieux.
voulais poser la
Voilà, donc
question parce
c'est.
que tu es ingénieur génie civil et tu contrôles des plans d'électricité et je me pose des questions, ça se passe comment?
Bon, on nous a montré, je pense, à la formation, même pas, je pense, on nous a montré la base, comment est-ce qu'un plan d'électricien, schéma électrique se fait. Après, l'électricien, c'est un peu technique. Lui, enfin, lui va venir faire son travail, mais toi, il faut savoir lire le plan.
D'accord.
Voilà. Une fois que tu sais lire le plan, tu peux mieux contrôler,
D'accord, c'est-à-dire lui,
quoi.
vous ne
Les
rentrez
zones.
pas en fait dans tout ce qui est électricité, mais c'est juste les plans, assurer que ce qu'il a
Non.
produit est vraiment réalisé correctement.
C'est ça, c'est ça.
D'accord.
Donc, j'ai suivi ça. J'ai suivi aussi les travaux de carrelage à l'intérieur, carrelage au sol. Et puis, le carrelage mural. Mais, au niveau des douches, salles d'eau, tout ça.
OK.
Après ça aussi, j'ai suivi un peu, oui, le carrelage à l'extérieur, j'avais commencé. Et là, c'est à cette phase-là, je crois, que je suis parti ailleurs pour faire un autre projet, dans une autre entreprise.
On peut avoir de plus en plus d'informations sur ce projet en question.
Ouais, j'étais en fait le chef de projet adjoint sur un projet, enfin, sur, ouais, c'est ça, c'est un projet de construction de 20 écoles primaires dans la zone de Yamoussoukro.
D'accord.
Voilà, c'est. Voilà, dans la région de Yamoussoukro, dans les villages, l'État avait lancé un projet de construction d'écoles privées dans les villes, dans les villages. Donc, l'entreprise dans laquelle j'étais avait en charge de construire, en fait, dans la zone où j'étais, 20 écoles primaires. Donc, je suivais aussi ce projet-là. C'était la même chose. C'était la planification, l'anticipation sur les ressources, les besoins. Le suivi, voilà, c'était un peu ça. C'était le même, je veux dire, c'était le même, la même fiche de poste.
D'accord. Mais est-ce que,
Mais là, en gros, c'était un peu plus grand.
oui, mais est-ce que ce projet, il avait quelque chose de particulier par rapport au premier?
Ah oui, déjà, c'était des écoles primaires, donc c'était pas en hauteur. C'était pas des R+, mais c'était R. En plus de cela aussi, c'était un nouveau modèle, c'était un nouveau type de construction, c'était avec les préfabriqués.
Des préfabriqués, c'est ça?
Premier projet, c'était les préfabriqués, voilà. Mon premier projet, c'était une construction traditionnelle, bon, classique, comme on le dit. on monte des agglos et puis on fait le mur. Mais là, dans ce projet-là, il n'y avait pas de mur à faire monter. Les murs étaient déjà préfabriqués ailleurs et qu'on transportait pour venir placer, positionner dans les endroits qui leur étaient réservés.
Donc, c'est-à-dire que les travaux, en réalité, ça consistait à réaliser tout ce qui est fondation et puis venir juste mettre les murs.
Oui, c'est ça.
Les murs, ils étaient en béton, j'imagine, puisqu'on parle de préfabriqué.
Oui, c'était en béton. Bon, c'était peut-être épaisseur 10 ou 12, oui, c'est ça.
Avec les réservations pour tout ce qui est porte, fenêtre.
Tout. Avec les réservations. Déjà, nous, il fallait vite finir la fondation, comme tu le dis. Mais nous, on appelait ça la plateforme. Une fois qu'on finissait la fondation, on faisait la plateforme, là, et on faisait les réservations.
Mais est-ce
là,
qu'on peut déjà avoir plus d'informations sur la plateforme? C'était quoi? Parce qu'après, on a les semelles isolées, on a les fondations profondes, les pieux. Dans ce cas, tu nous parles de maison basse, dont effectivement, on n'a pas besoin de fondations profondes. Mais c'était quoi? La fondation était constituée de quoi exactement? Ou bien c'était juste une plateforme, genre un radier?
Non, c'était pas un radier, c'était avec la semelle filante qui était là. On avait une semelle filante là, coulée béton, et on montait deux, trois rangées pour être un peu à niveau, parce que souvent le terrain était très en pente. Donc, il fallait s'arranger, il fallait que ça soit vraiment à niveau partout. D'accord. Pour ne pas qu'après, quand on vient poser les panneaux, les murs là, qu'on ait des problèmes. Mm-hmm. Donc, on coulait la semelle filante, et puis par endroit des petits poteaux pour juste pour réduire un peu le mur de fondation, le sous-bassement. Oui. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et puis après, quand on sortait du sol, on préparait un dallage. Un dallage de, je crois, 15 ou 20 centimètres, je ne me rappelle plus trop. Et c'est pendant cette préparation du dallage là qu'on faisait les réservations des murs.
D'accord. Maintenant, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Généralement, dans les bâtiments, on a des structures porteuses. C'est vrai que c'est une maison basse, donc on a obligatoirement besoin d'éléments raidisseurs. Maintenant, dans votre cas, c'était comment?
Dans notre cas, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas de raidisseurs. Le raidisseur, c'était au niveau de comment on appelle
la fondation.
La fondation, comme je l'ai dit, on faisait la radisson. Maintenant, c'est au croisement des murs. Oui. Là. Il y avait un joint que les gens mettaient pour juste pour consolider les deux panneaux qui devaient
le joint, il était en quoi? Quel matériau?
C'était du polystyrène. Hein. Moi, je ne me rappelle plus trop, mais c'était du polystyrène.
Mais bon, si cette technique, elle est aussi rapide et plus résistante. Pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est pas utilisé de manière classique, quoi? Pourquoi est-ce que c'est pas vraiment, on va dire, vulgarisé?
Non, après, c'est vrai que c'est rapide, mais après, c'est coûteux aussi. Ça demande beaucoup de moyens logistiques. Beaucoup de moyens logistiques. Parce que là, pour faire être fabriqué, une fois que c'est fabriqué, il faut transporter. Il faut des grues pour pouvoir poser. Et là, ça demande beaucoup de moyens logistiques. En plus de cela aussi, la préparation. Il ne faut pas se rater dans la préparation des réservations. Parce que là, c'est déjà préparé. Les plans sont connus. Quand ça vient, il faut que ça rentre pile poil.
OK.
Dans la place qu'il a réservée. Parce que souvent, quand on faisait, c'est vrai qu'il y avait des ratés par moment. Parce que là, quand ça vient, tu es obligé de, on est obligé d'ouvrir encore trop bien, de fermer. Parce qu'il y a trop de, ça n'a pas été bien réservé. Donc, ça demande plus de technique aussi. Voilà, c'est un peu plus technique.
D'accord, mais en termes de délai de réalisation, on avait à peu près combien de temps pour ce type de, pour un bâtiment en question?
Pour un bâtiment, déjà nous on faisait la plateforme en un mois. Oui, et puis l'équipe qui venait faisait, je crois, 3 semaines, 6 semaines, un truc comme ça. Je me rappelle même plutôt. Il y a longtemps, c'est 2015-2016. Ouais.
Donc, mais c'est vraiment plus rapide que la construction
classique. En deux mois. Ouais, c'est plus rapide.
D'accord.
C'est plus rapide. Tu fais une fin de faire ta place en un mois, le reste, c'est 3 semaines, tu as fini de monter tout. C'est juste mettre la couverture.
Donc, je pense que le seul challenge qui se pose avec cette méthode-là, c'est les moyens logistiques, au fait. Les moyens logistiques et puis, on va dire, la préparation de la plateforme. Puisque quand on se rate, c'est. C'est presque fichu, quoi.
Ça devient, voilà, ça devient encore plus coûteux.
Ok.
Quand on se vote.
Et après cette expérience-là, qu'est-ce que tu as eu à faire?
Après cela, j'ai fait un concours d'entrée au CESAG. C'est le Centre africain d'études en gestion. Voilà, donc qui se trouve au Sénégal. J'ai présenté ce concours, j'ai été admis en 2015. Donc j'ai fait 6 mois là où j'étais. C'est en 2000, quand j'ai eu le concours, j'étais parti au Sénégal pour aller continuer un peu, pour faire un MBA en gestion de projet. Et bon, j'ai posé ma démission et je suis parti. Et j'ai fait 1 an de formation là-bas, en présentiel. C'était vraiment une formation diplômante, c'était pas un certificat.
Donc, on peut avoir c'est quoi la différence entre les deux? Une formation.
La différence, c'est que là-bas, c'est un diplôme qu'on te donne, c'est pas un certificat de formation.
Ah, d'accord.
C'est un diplôme comme diplôme d'ingénieur, machin, mais c'est pas comme un certificat de formation. T'as fini, on te donne un certificat.
Ah, ok, je vois.
C'est différent.
Maintenant, c'était vraiment quoi la plus-value de cette formation-là par rapport à ton diplôme d'ingénieur?
Ce que j'ai vraiment aimé là-bas, c'est que, vous savez qu'on faisait la planification, mais en termes de planification, j'ai été mieux outillé là-bas. Après cette formation, j'étais mieux outillé. J'ai géré, enfin, la gestion d'un projet dans sa globalité. Je connaissais presque toutes les branches qu'il fallait, tous les moyens qu'il fallait pour mieux gérer un projet. Voilà. Donc, j'étais plus ou moins bien outillé maintenant par rapport à dans la gestion d'un projet. Parce que là, en tant qu'ingénieur de travaux, avec ce que j'ai vu comme expérience, je me demandais qu'il fallait ça. Qu'il fallait cette formation en plus là. Pour la suite de ma carrière. Mais c'est sur le tas même, sur le terrain qu'on apprenait encore plus, mais après, il m'a dit, il fallait encore plus, quoi. Et je pense que c'est un de nos aînés à l'école qui m'avait parlé de ce projet, de cette école. Et j'avais pas oublié. Et quand l'occasion s'est présentée, j'ai présenté le concours, et j'ai eu ce concours. Et c'est en octobre 2015, que je suis parti à Dakar, et j'ai fait 1 an, c'est trop dit, 9 mois, 10 mois, ouais, c'est ça, de formation. Et pour.
Dédié seulement aux études, hein, tu n'as pas fait autre chose à côté, comme en consultant, ou bien travailler en
freelance? Non, j'ai pas fait ça. En fait, j'ai voulu vraiment me concentrer là-dessus, pour mieux comprendre, mais je pense que ça a été bénéfique pour moi, quoi. Et je vois la plus-value ici dans ma carrière actuellement. Ouais.
D'accord. Et après le CESAG, tu es revenu au pays, qu'est-ce que tu...
Oui, je suis revenu au pays. Après la formation, je suis venu faire un stage ici dans une grosse structure de la place, enfin une structure semi-publique. Je ne sais pas si c'est public ou c'est privé, c'est le Bennett. J'ai fait 6 mois, enfin 3 mois de stage afin de valider mon diplôme en gestion de projet. Et quand j'ai fini ces 3 mois de stage, j'ai été appelé dans notre entreprise en tant qu'ingénieur de travaux encore. Et j'ai fait 2 mois avant d'être promu responsable technique dans cette structure. Et là, c'était encore plus compliqué parce que là, c'était vraiment... Il fallait être bien organisé, bien planifier ses travaux. Parce que là, t'as pas un seul projet, t'as plusieurs projets à suivre. Et t'avais plusieurs personnes sous la main qu'il fallait gérer.
D'accord. C'est-à-dire que les 2 premières expériences, tu étais vraiment dédié, oui, à un seul projet. Mais dans cette nouvelle entreprise-là, tu chapeautais plusieurs projets
Plusieurs projets en même temps. Avec des difficultés différentes. Chaque projet avait ses difficultés qu'il fallait résoudre. Mais là, j'étais pas sûr, j'étais accompagné de mon DG, bien sûr, et lui aussi qui était bon. Et ça demandait beaucoup d'organisation, beaucoup d'implication. C'était une vraiment très bonne expérience pour moi. Et comme je le dis toujours, ce métier qu'on exerce, si t'as pas la passion, tu peux pas le faire. Il faut être passionné par ce métier-là. Surtout même pour les travaux, il faut vraiment être passionné. Et je le faisais. C'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile. Après, je me suis acclimaté. Et là, ça va. Et ça allait bien. Et puis bon, après, il y a une autre entreprise qui m'a, qui m'a appelé encore. Et là.
Mais avant d'aller au niveau de cette entreprise, tout à l'heure, tu viens de dire que là où tu étais, c'était un peu plus compliqué par rapport aux deux premières expériences. Est-ce que tu peux nous donner vraiment des éléments qui ont rendu ça plus compliqué et comment est-ce que tu t'es arrangé pour pouvoir vraiment bien gérer ces situations?
Comme je l'ai dit, c'était l'organisation. Il fallait gérer ou disons manager plusieurs projets, plusieurs personnes en même temps. C'était ça la difficulté. C'était ça.
Le management des personnes. Fait.
Et puis...
Oui, ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend généralement pas à l'école.
Ça, c'est, il fallait manager toutes ces personnes-là, il fallait être à leur écoute, il fallait être là pour ne pas qu'ils fassent des choses qui ne sont pas correctes. Et après aussi, c'était la gestion du matériel. Parce qu'il fallait donner du matériel à tout le monde. La demande était forte. Chaque projet demandait du matériel et il fallait s'arranger à ce que vraiment pour satisfaire presque tous les responsables projet ou bien tous les techniciens sur chaque projet.
Donc, on devait avoir une vue d'ensemble.
Une vue d'ensemble. Et dans mon quotidien, c'était ça. Le matin, je me réveillais, je faisais tout le tour de tous mes chantiers. Je recensais toutes les difficultés. Et je donne des propositions, des solutions. Enfin, je ne faisais pas seul, je faisais avec mes techniciens. On réfléchissait ensemble. C'était vraiment un management participatif. On réfléchissait ensemble et puis on trouvait une solution. Mais d'autres, il y a des problèmes auxquels on n'avait pas trouvé de solution que je remontais à ma hiérarchie le soir. Et je faisais un point après le tour de mes chantiers, on faisait un point. Et ensemble aussi, on trouvait une autre solution. Une solution encore plus rapide au problème. Voilà.
D'après ce que tu dis, je vois que tu te comportais plus en leader qu'en patron, en fait. Parce que généralement, quand on est patron, on ne demande pas. Très souvent, il y a des personnes qui ne demandent pas l'avis de, on va dire, de ceux qui travaillent avec eux parce que ce sont eux les patrons, ce sont eux qui disent ce qu'il y a à faire.
Oui.
Peut-être pour certaines personnes, demander l'avis des gens avec qui on travaille, c'est montrer qu'on ne connaît pas. Mais ce que tu dis, c'est intéressant. Et puis, ça permet de donner de l'importance à tout le monde, en fait. Tout le monde se sent important dans l'équipe.
C'est ça.
Tu demandes l'avis, tout le monde donne ses idées. On fait un brainstorming, chacun se sent important.
Mm-hmm.
Je pense que c'est un point qui facilite le travail d'équipe. Et c'est bien que tu nous rappelles ça.
Mm-hmm. C'est vrai, c'est ça. C'est important parce que nul n'a la science infuse. Donc, avec le technicien, avec ce qu'il a vu, voilà, avec le technicien avec son expérience, moi aussi la mienne, moi aussi j'avais mon expérience. Mais face aux difficultés, il fallait forcément demander leur avis. Moi, je pense à mon avis, moi, comme ça, je conçois le management des hommes, quoi. Il faut demander leur avis. Souvent même, la solution vient d'eux-mêmes. Voilà, souvent même, la solution vient d'eux-mêmes.
Oui, j'imagine.
Ils te mettent un problème là, ensemble, vous parlez, et puis tu lui demandes son avis, et puis bon, je trouve que la solution, elle est la meilleure. Après, en tant que responsable, tu améliores, quoi, tu mets quelque chose en plus là-dessus pour aller plus vite.
C'est ça, il donne un fil conducteur, et puis tu agrémentes en tant que, ingénieur.
Ingénieur, ouais, c'est ça. J'étais pas un patron, j'étais vraiment avec mes gars. Et souvent même, il fallait rentrer souvent dans la famille, dans de la personne, pour pouvoir comprendre ses relations. Parce que, dans ma conception de management, il faut faire en sorte que le personnel soit à l'aise dans le boulot, dans le travail. C'était ça ma conception. En fait, c'est toujours ça même après. Il faut que le personnel se sente bien dans le travail. Il faut que cette personne aussi se dise que même si je quitte ici, enfin, je veux dire, même si je quitte, je ne suis pas au travail, mais il faut que je m'inquiète de ce qui va se passer là-bas. Elle soit vraiment en famille, quoi. Donc, je pense que c'est comme ça que je vois les choses.
Faut qu'elle sente son importance.
Voilà, il faut qu'elle sente son importance. Voilà. Quand quelqu'un te donne une solution et puis après, la personne, tu penses que ouais, c'est la solution qu'on a adoptée. Elle est prête à tout pour que ça marche, quoi.
OK.
Voilà.
Et à la suite de cette belle expérience que tu viens de nous raconter, là, qu'est-ce qui s'est passé?
2017. J'ai bifurqué carrément. J'ai changé de métier. Mais c'est même génie civil, mais un autre domaine plutôt du génie civil. J'y suis passé.
Il y avait une raison particulière à ça?
Ouais, j'avais voulu voir ailleurs, hein, parce que, enfin, comme je l'ai dit, je ne me mets pas dans une zone de confort. Voilà. Voilà, après, ça devient mieux, quoi. Mais quand j'ai eu, les gars, ils m'ont débauché, je suis parti ailleurs, quoi. Carrément, dans un autre domaine, c'est le domaine routier. Ce n'est plus le bâtiment. Parce que là, toutes mes années, jusqu'en 2017, juin 2017, je faisais que du bâtiment. Et après, en tant qu'ingénieur de travaux, c'est pas que le bâtiment que tu fais. Enfin, t'as d'autres bagages, c'est vrai qu'il y a d'autres spécialistes dans le bâtiment. Mais tu peux faire autre chose, quoi. Donc, j'ai été, jusqu'à présent, je suis dans cette entreprise-là. J'ai été débauché en tant qu'ingénieur cost control. Bon, cost control, c'est le nom que j'ai donné à ma fonction, mais après, en réalité, j'ai fait de l'étude de prix. Et puis, qui parle d'études de prix, parle de gestion de budget aussi. Donc, je faisais la gestion budgétaire.
D'accord. Ben ça, je pense que ça sera une nouvelle partie qui sera très intéressante. Gestion de prix, gestion budgétaire. Tu vas nous raconter un peu en quoi est-ce que ça consiste.
D'accord. Ça aussi, c'était tout nouveau pour moi, hein, parce que là, on n'apprend pas à l'école. Voilà, c'était tout nouveau pour moi. Quand je suis arrivé, heureusement même que j'avais des années qui étaient là-bas qui m'ont coaché. La gestion des prix, l'étude des prix, c'est quoi? C'est de d'évaluer toutes les ressources nécessaires dans la réalisation d'une tâche donnée, d'un projet. Et quand tu évalues ces ressources-là, que tu ramènes ces ressources quand tu évalues le montant de ces ressources, on va te donner le prix de revient d'une unité de cette tâche. Voilà. Donc, c'est ce que je faisais. Okay. Je prends un exemple. Okay. Si je dois réaliser un coffrage donné, j'ai dit pour faire ce coffrage-là, qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser ce coffrage? Je vais dire que je veux besoin de bois, de pointes, de petits matériels, du personnel, des ouvriers qualifiés, des manœuvres. Je vais évaluer tout ça. Et je vais dire, voilà, ça peut me revenir à, je sais pas, 3 000 francs, 4 000 francs le mètre carré de coffrage. Ça me donne le prix de revient. Voilà, c'est ça qu'on appelle communément le prix sec. Voilà. C'est ce prix-là.
Le déboursé sec pour une tâche donnée.
Voilà, le déboursé sec, voilà, pour une tâche donnée. Une fois que
tu... Donc, t'as dit quoi, tu as dit que c'était dans le domaine routier. Généralement, on voit les gens en train de construire la route, mais on ne sait pas c'est composé de quoi et quoi. Déjà, il faut savoir que une route est composée de plusieurs parties. Mm-hmm. Il y a d'abord tout ce qui est, on va dire, terrassement, qui sera divisé en plusieurs prix. Mm-hmm. Voilà, en plus des terrassements, on aura la chaussée elle-même, mm-hmm. on aura l'assainissement et puis d'autres corps de tâches, c'est ça. Donc, toutes ces tâches-là sont divisées de manière... Toutes ces tâches-là sont subdivisées en tâches élémentaires de telle sorte qu'on puisse estimer le prix unitaire par tâche.
Oui, c'est ça.
C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Mais j'imagine que c'est un travail qui demande beaucoup de temps et de patience, alors.
Oui, ça demande beaucoup de temps. Parce que là, quand tu participes à un appel d'offres, il faut s'arranger à ce que ton prix soit compétitif, tout ça. Ça demande beaucoup de patience, de concentration et puis bon, beaucoup d'expérience aussi. C'est vrai qu'on n'était pas expérimenté dans le domaine routier, mais comme on était entouré de personnes qui étaient expérimentées dans ce domaine-là, on se faisait accompagner par eux. Et pour faire ça, on appelle ça la sous-détail de prix. C'est-à-dire si tu as un prix donné.
Sous-détail de prix.
Voilà, la sous-détail de prix. Quand tu veux faire une tâche de, je sais pas, comme tu as parlé de terrassement, dans le terrassement, on a les déblais. Le déblais, bon, c'est d'enlever le matériau qui est là et puis bon, le mettre ailleurs, ou bien au dépôt, ou bien utiliser ça ailleurs. Maintenant, pour faire cette tâche de déblais-là, je vais dire, j'ai besoin de quoi pour faire cette tâche? Environ, si je dois faire, je sais pas, n'importe quoi, 2000 mètres cubes de déblais, bon, c'est un peu exagéré. Si je dois faire, je sais pas, 400 mètres cubes, ou bien 500 mètres cubes de déblais, je vais dire, pour faire ça, qu'est-ce qu'il me faut comme moyen humain et matériel? Je vais dire, j'ai besoin de
peut-être consommable aussi.
Et de consommable. Mais comme c'est des blés, bon. à la limite, c'est, voilà, c'est un peu différent. Donc, tu auras besoin de pelles, de bulles, de camions, de pas mal d'éléments et puis du personnel, d'un chef de type, d'un chef.
En parlant de pelle, il faut préciser que tu parles de pelle hydraulique, sinon après, ça peut prêter à confusion.
Comme c'est du domaine, je parle comme si j'étais en France. Voilà.
Oui, mais en fait, le problème, c'est que les auditeurs ne sont pas tous du domaine. Et même s'ils sont du domaine, ça peut être des débutants qui ont besoin de... L'objectif, c'est d'enlever tout le flou au fait qu'il y a autour de notre métier.
Effectivement, c'est bon.
D'accord. Mmh. Donc, on va tout ce qui est équipement, engin, pelle hydraulique, bulle, comment on appelle, camion, chargeur, déchargeuse, ainsi de suite.
C'est ça.
Et à la suite de ça, voilà. Ça, c'est les engins.
Les engins, les personnels aussi. J'aurai besoin d'un chef d'équipe, j'aurai besoin de manœuvres. C'est tout ça que je value là. Et je me dis, pour faire ça...
C'est-à-dire que, par exemple, pour les manœuvres, tu vas évaluer ça en termes de coût horaire ou bien coût journalier.
Coût journalier.
Pour les équipements, tu vas évaluer ça en termes de coût journalier, rendement aussi.
Oui, c'est ça. En fait, ça, après ça...
Donc, c'est tout ça qui...
Après, ça dépend de comment est-ce que dans l'entreprise, on fait... Souvent, on peut faire ça un coût horaire, souvent, on peut faire un coût journalier aussi. Bon. Mais après, c'est, l'unité, ça dépend, quoi. C'est pas figé.
Mais bon, c'est vraiment des trucs sur lesquels on peut, on va juste multiplier après par le nombre de temps qu'on va travailler ainsi.
C'est ça.
OK. Donc après ça, tu as estimé le coût des engins, le coût du personnel. Et qu'est-ce que tu fais après ça, après avoir estimé tout ça?
Après avoir estimé tout ça, tu auras un montant global de tes dépenses par rapport à cette tâche donnée pour faire 200 mètres ou bien 300 mètres cubes de déblais. Que tu reviens, tu ramènes ça sur la quantité, tu auras un prix de revient. C'est-à-dire, si tu dis que tu fais 200 mètres cubes, tu vas dépenser, je ne sais pas, n'importe quoi, 1 million, bien 2 millions. Tu fais le 2 millions divisé par la 200 mètres cubes, tu auras le prix unitaire de la tâche donnée.
OK.
Voilà. Mais après, il y a d'autres qui le font sur Excel, mais là où j'étais, on a un logiciel qu'on appelle, je ne sais pas si on peut parler de ça, si ça va faire des publicités.
Non, bien sûr, si c'est l'équipement que tu utilises pour travailler, que ça peut être utile, on en parle.
Donc on appelle le logiciel la Pentagon. Voilà. Ça a été développé par des Français. C'est un très bon outil. Le truc, c'est qu'on a une base de données bien fournie, en termes de matériel, personnel, tout ça qui est bien établi déjà. Et ce logiciel est adapté à ce genre d'études de prix. Voilà. Donc, dans ce logiciel-là, il suffit juste de choisir le matériel dont on a besoin, le personnel dont on a besoin, et puis lui, il te calcule automatiquement le prix des revenus. Il est conçu pour ça. Donc, ça fait que, du coup, ça partait vite. On allait vite. On prenait pas trop de temps. C'était si Excel, c'est un peu. Excel, ça se fait. Mais tu vas prendre du temps, tu vas. Il y a des gens qui ont fait des programmes.
C'est un peu fastidieux.
C'est un peu fastidieux. Voilà. Mais sur ce logiciel, comme il est adapté à ça, donc ça va plus vite, quoi.
Mais tel que tu expliques, j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir un certain rendement. Donc, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes rendements pour les engins aussi.
Non.
Ça rentre en compte dans le calcul des prix unitaires. Parce qu'une entreprise qui utilise un bulle qui est tout neuf, je dirais, n'a pas avoir le même rendement qu'une entreprise qui utilise un bulle qui tombe en panne chaque deux semaines.
C'est ça. Après, comme tu l'as dit...
Donc, vous tenez compte de l'état de vieillissement des engins aussi et tout ça, ou bien...
On tient compte de tout ça et on tient compte aussi du retour d'expérience de l'entreprise, des chantiers.
OK.
Voilà, parce que c'est le rendement, on sait que, bon, pour faire cette tâche-là, on avait l'habitude de faire tel mètre cube, machin, avec les engins qui sont là. Voilà, c'est avec l'expérience, on arrive à estimer, on donne le rendement. Voilà. C'est pas. Parce que d'un projet à l'autre, c'est pas le même rendement. Des travaux neufs et des travaux de réhabilitation, on n'aura pas le même rendement en termes de dégagement, en termes de terrassement et autres. C'est pas pareil. Donc, tu vois, c'est avec l'expérience, c'est pourquoi je dis qu'on se faisait accompagner par les gens expérimentés autour de nous. Voilà. Mais ce logiciel-là, avant de. On nous a formé, on a fait une formation pour ce logiciel-là afin de le maîtriser rapidement. Voilà. Donc, c'est un très bon logiciel.
D'accord. Moi, j'ai une autre question, toujours concernant les études de prix. Pour un chantier donné, là, tu viens de me dire que tu estimes le prix par tâche, mais est-ce que l'étude de prix se résume vraiment à l'étude du prix de toutes les tâches données? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte?
C'est-à-dire, je comprends pas.
C'est-à-dire, sur le chantier, par exemple, on va avoir une grue. Bon, on peut avoir une grue pour lors de la construction d'un ouvrage d'art, mais une grue, ça rentre pas en ligne de compte d'une tâche donnée de manière spécifique.
Non, ça non, par moment, il y a des tâches qui utilisent les grues. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les frais de chantier dans l'étude de prix. Les frais de chantier.
Voilà, donc c'est là que je voulais en venir. Donc les frais chantiers, dis-nous un peu, ça consiste en quoi exactement?
Les frais de chantier, c'est
Généralement, qu'est-ce qu'on a dans les frais du chantier?
le personnel d'encadrement. Il y a des ressources, comme tu as dit, qui ne rentrent pas dans une seule tâche. Il y a des ressources qui font presque toutes les tâches. Voilà, donc on ne peut pas les mettre dans une seule tâche, mais c'est les charges fixes, en fait.
OK.
C'est des charges fixes, c'est-à-dire que peut-être si tu prends le directeur projet, le directeur travaux, il est là, mais pour toutes les tâches. Donc lui, on le ventile sur toutes les tâches, mais on le met là dans les frais chantiers. On ne peut pas le mettre dans chaque prix, mais on le met là dans les frais chantiers, mais sur la durée du projet. Je prends aussi une grue qu'on utilise un peu partout. Cette grue aussi, on le met aussi à la main plutôt dans les frais chantiers. Y a le personnel d'encadrement, le laboratoire, l'équipe topo et tout le petit matériel qu'on utilise là, partout, ça,
Pour toutes les
pour
tâches
toutes les tâches
données, par
données.
exemple, je prends un vibreur, il sera utilisé pour vibrer tous les bétons du chantier.
Oui.
On a aussi si on travaille la nuit, les projecteurs, c'est pas seulement pour une seule tâche.
C'est ça.
D'accord. Et après ça, je me dis que vous avez peut-être un support au bureau parce que le chantier, il peut être à 100 km, 50 km du bureau, mais tous les travaux du chantier ne sont pas obligatoirement réalisés au chantier. On peut avoir des gens qui apportent un support depuis le siège. J'imagine que tout cela sont pris en compte aussi.
Oui, ça,
Ou bien.
tout cela sont pris, c'est ce qu'on appelle les frais généraux. C'est dans ça que, enfin, une fois que nous, on a déterminé le prix sec de la tâche, ou bien,
Oui.
oui, on multiplie ce prix-là par un coefficient de vente. Dans ce coefficient de vente-là, on a les frais généraux. Et c'est ce que tu
Ah,
viens
ok,
de dire,
d'accord.
c'est la fonction support, la direction générale, tout ça. C'est un peu ça, c'est ça qui rentre dans le coefficient de vente. Par exemple,
Dans le coefficient.
si tu as un prix sec de peut-être 1 000 francs, tu peux soumettre, je sais pas, 1 300, 1 400 au client, quoi. Dans les 400, tu as tes frais généraux, puis tu as ta marge aussi. On calcule tout ça, en fait.
Donc, c'est-à-dire que dans le coefficient multiplicateur en question, on a les frais du chantier, on a les frais généraux et en plus de ça, on a la
C'est
marge.
ça.
Ben, c'est quelque chose qui est vraiment calculé en amont, quoi. C'est-à-dire que
C'est calculé, non, c'est calculé.
j'imagine qu'une entreprise vient de se créer, elle essaie d'estimer tout ça et puis bon, ok, elle dit, on met ça dans un coefficient et après, on n'a plus besoin de recalculer ça à tout moment.
Non, souvent, en fonction de l'année, des chiffres d'affaires qu'on fait et puis du personnel qu'on a, ça se calcule chaque fois, ça
Oui.
peut changer. Les frais généraux peuvent augmenter comme baisser. Parce que là, ça dépend de la masse salariale, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Par moment, on fixe, mais ça peut varier par année. Parce que à la fin de l'année, on peut faire un point de nos frais généraux, qu'on ventile sur tous nos projets, on va voir que ça va représenter un taux. C'est ce taux-là qu'on va utiliser pour l'année suivante.
Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que durant l'année 2021, tout ce qu'on a eu à faire, comme on va pas tenir compte des projets disons, on va pas dire que est-ce que les projets qui sont en cours de réalisation ont permis de couvrir tout, mais on va plutôt faire la somme de tout pour voir qu'est-ce qu'on a dépensé exactement, tout ça en frais généraux, en frais de chantier, et puis on essaie de ventiler ça sur, on va dire tous les projets pour déterminer un coefficient plus réaliste.
Oui, c'est ça.
D'accord. Ben, merci pour ce partage d'informations. C'est super.
Plaisir.
Après ça, On fait quoi? Lorsqu'on finit d'étudier le prix, de prendre en compte tout ce qui est frais généraux, frais de chantier, déboursé sec par tâche, on fait quoi?
Bon, après ça, quand on se met au client que c'est validé, là, le chef de projet ou un directeur de travaux qui vient va faire son budget. Ça, c'est ce prix de revient qu'on a fait, l'étude de prix qu'on vient de faire là. Lui, ça va, il va s'en servir pour faire son budget. Voilà, il va voir, il va dire réellement. Ça, c'est l'étude en base d'études, on a fait l'étude d'estimation. Mais lui, de façon réelle, de façon concrète, comment est-ce qu'il compte faire ce projet-là? Il y a la méthodologie. Lui, on lui passe tous les dossiers. On appelle ça les transferts entre l'étude, le bureau d'études et puis l'opérationnel. On lui donne tous ces éléments-là. Maintenant, lui, il va faire maintenant son budget réaliste. Voilà. Mais il faudrait pas qu'il se dépasse notre budget d'études. C'est vrai qu'on va, on va, il y a des choses.
Ça, c'est le directeur de travaux qui fait
Il y a
ça.
des directeurs de travaux qui fait ça. Mais nous, dans mon cas, là, je travaille en même temps avec, surtout les directeurs de travaux. Je faisais le budget avec eux. Parce que je maîtrisais déjà l'outil. Avec eux, on faisait le budget ensemble. Et on définissait le budget réel. Enfin, quand je dis réel, réaliste, quoi. De ce projet-là. Voilà.
Si je comprends bien, c'est-à-dire on a fait l'étude de prix, on a participé à un appel d'offres, on a eu le marché. Maintenant, en phase de réalisation de projet, on va demander au directeur de projet qu'est-ce qu'il compte utiliser, par exemple, pour faire son coffrage, comme tu as parlé de coffrage tout à l'heure.
C'est ça.
Et lui, il va citer les différents éléments. J'imagine que tout ce qu'il va citer doit rester dans la marge du déboursé, ce qu'on a eu à
C'est
faire
ça.
pour le mètre carré de coffrage.
C'est ça.
Lui, il tient plus compte de tout ce qui est frais généraux, frais de chantier, ça, c'est pas son problème.
Là, c'est pas son problème, mais la question. C'est pas, ça ne le concerne pas. Lui, c'est vraiment
D'accord.
les prix de revient qu'il regarde, quoi. Voilà. Maintenant, une fois que lui, il a fait
Donc,
son.
pour toutes les tâches, vous allez faire ce
C'est
travail-là.
ça, pour toutes les tâches. Mais bon, c'est pourquoi l'outil Pentagone est là. Hein. Ça va plus vite, quoi. Maintenant, une fois que ça, il a fini de faire son budget, il fait valider ça par la direction des opérations ainsi que par la direction générale. Et c'est ce qu'on suit maintenant. Ça devient la Bible, là, ou bien le document référence. Voilà.
C'est-à-dire, lui, après avoir élaboré son budget, on valide ça, tout le monde est d'accord. Et puis, c'est sûr, ça, on marche sur le chantier
Le
maintenant.
sentir, oui. Et là encore, on a développé un autre logiciel là-bas en interne qui permet de suivre toutes les dépenses journalières sur les chantiers, tâche par tâche, en fonction du budget établi, quoi. Tâche par tâche. Quand c'est comme ça, on compare chaque fin du mois, on fait un point des dépenses effectuées par tâche et on compare ça au budget initial validé. C'est-à-dire qu'on fait toujours un suivi budgétaire pour ne pas que il y a des dépassements, pour ne pas qu'il y ait des surprises à la fin. On n'attend pas la fin du projet pour venir voir, constater qu'il y a eu des dépassements. Donc, on anticipe déjà. On a mis vraiment un outil en place. C'est des rapports journaliers, tout ça, qui mettent tout ce qu'on a exécuté sur le chantier, sur un document, et qu'on saisit dans ce logiciel-là. Et ça nous donne un prix de revient aussi réel maintenant. C'est-à-dire, là, tu regardes ton prix de revient réel, tu compares à ton prix budget, pour voir si t'as pas fait d'erreur, tout ça. Si t'as pas fait des trucs, si il ne faut pas corriger, si il ne faut pas revoir notre méthodologie de travail, tout ça. C'est vraiment.
Est-ce qu'il arrive qu'on ait vraiment, pas à la fin du chantier obligatoirement, hein, mais par exemple, pour un mois donné, on sorte carrément du prix validé.
Oui, ça
On
arrive.
soit au-delà, ça.
Ça arrive.
Et ça, qu'est-ce qui peut expliquer ça?
Bon, peut-être que pendant l'étude, il y a des paramètres qu'on n'a pas pris en compte, qu'on n'a pas considérés. Et puis, dans la réalisation, il y en a d'autres contraintes. Il y a ça. Et puis, soit aussi, ça a été mal étudié. Si ça arrive souvent, par moment, pendant l'étude de prix, celui qui faisait l'étude de prix n'a pas bien apprécié les choses, il risque de se tromper. La réalité fait que, bon, si par exemple, je prends les travaux de débroussement, pour les travaux neufs. Il a pris, peut-être, il s'est dit, il peut faire 6 000 mètres carrés jour. Alors que pour les travaux de réhabilitation, tu peux pas, tu peux faire peut-être 4 000, 3 000 mètres carrés jour. Si lui, il a pris le rendement des travaux neufs pour mettre ça en réhabilitation, tu vas voir que son prix de revient, là, sera plus petit pour les travaux de réhabilitation. Alors que quand on va réellement exécuter avec les mêmes ressources, tu vas faire moins en termes de rendement. Et du coup, ce dépassement, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça dépend de comment est-ce que celui qui essaie les études de prix concevait les choses. Voilà, ça arrive. Maintenant, après, on essaie de corriger, de se rattraper sur d'autres prix où on pense qu'on peut faire une bonne marge.
D'accord, c'est-à-dire serrer un peu plus, quoi.
Serrer un peu plus.
Faire augmenter notre rendement, voilà, par rapport à ce qui était prévu,
c'est ça,
initialement.
C'est ça. Non, okay. On fait ça chaque fin de mois. Maintenant, après, chaque fin de mois, on fait ce reporting, mais à chaque 6 mois, ça c'est selon l'entreprise, mais là où moi je suis, chaque 6 mois, on fait une révision budgétaire. Elle dit qu'on vient voir, bon, aujourd'hui là, au début tu avais prévu 6 milliards, jusqu'à le 6e mois, voici ce que tu as consommé, et ce qui te reste à faire, tu vas faire le budget de ce qui reste à faire. Et on va voir.
D'accord, c'est-à-dire mettre à jour le budget.
Le budget, voilà.
En fonction des réalités rencontrées durant les 6 mois précédents.
C'est ça.
D'accord. Maintenant, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Dans les projets du génie civil, on a toujours des imprévus.
Oui.
Donc, j'imagine qu'on ne peut pas tout étudier du début à la fin de manière à la virgule près. C'est
non,
pas possible.
Non. Il y a toujours des imprévus.
J'imagine que quand on soumissionne, les différents prix sont là, mais il peut arriver que quand on suit des prix qui ne sont pas dans notre, qui ne faisaient pas partie de notre offre.
C'est ça.
Ce genre de cas, vous gérez ça comment?
Ça, on appelle ça le prix nouveau. Dans ce genre de cas-là, on interpelle la mission de contrôle. Bon, dans un projet, il y a plusieurs parties. Hein. Il y a la mission de contrôle, l'entreprise et puis le client. Ou bien le maître d'ouvrage.
Bon,
dans ce genre de cas-là, on les interpelle là-dessus. Souvent, ça fait l'objet de prix nouveau. Et du coup, on dit, bon, ce prix-là, c'était pas prévu dans le marché. Et nous, on va leur proposer le prix qu'il faut pour faire cette tâche. Et eux aussi, ils vont vérifier, ils vont regarder. Une fois que c'est validé, on prend ça. Souvent aussi, ça peut faire l'objet d'avenant. Ça, c'est l'avenant, c'est, on va faire, en plus du montant du marché qui est là, on va faire un autre marché en plus.
D'accord. En parlant de prix nouveau, faut peut-être expliquer ça un peu. C'est-à-dire que, lorsqu'on fait notre étude de prix, on a supposé que dans la zone où on va travailler pour un projet routier, on n'a peut-être pas de zone marécageuse.
Mm-hmm.
Donc, on n'a pas prévu de purge.
Mm-hmm.
Donc, dans notre offre, peut-être que la ligne de purge n'existe même pas, ou bien elle existe, mais elle n'a pas de prix.
Ouais.
Et en phase de travaux, on se rend compte qu'on tombe sur une zone de purge et on doit enlever le matériau qui est là et le remplacer par un autre matériau de bonne qualité.
C'est ça.
Et on ne peut pas se mettre directement à le faire comme ça parce que c'est une histoire de, on a prévu de faire ça, on fait ça obligatoirement. Si on doit changer quelque chose, il faut avoir l'accord de celui qui paye.
C'est ça.
Parce que vous êtes l'entreprise, vous avez les moyens de le faire, mais si celui qui paye, il donne pas son avis, vous allez travailler gratuitement en fait.
C'est ça.
Donc, quand Aedara parle de prix nouveau, c'est un peu ça. Des choses qui n'étaient pas prévues qu'on découvre sur le chantier, qu'on doit faire obligatoirement.
Exactement.
Maintenant, il peut arriver que ce soit vraiment quelque chose de entre griffes petit, c'est pas vraiment ce qui est plus cher.
Mm-hmm.
Par contre, il peut arriver que c'est quelque chose qui peut faire même 10% du projet,
ouais.
du montant du projet.
C'est ça.
Et quand on arrive à certains montants, là, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un avenant. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un contrat complémentaire à ce qu'on avait avec le client.
C'est ça.
Si je me trompe, tu rectifies.
Non, c'est exactement ça. Tu motives bien, cette affaire-là. C'est bien.
D'accord. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la validation des prix nouveaux avec le client, elle se passe comment exactement?
Ah, c'est pas compliqué. La mission de contrôle, d'abord, va nous demander de leur proposer quelque chose, le prix qu'on souhaiterait avoir. On lui soumet et on discute.
Oui.
On discute, on essaie de regarder. On fait un sous-détail de prix. C'est une étude de prix. Une étude de prix, quoi. On fait un sous-détail de prix pour lui dire voilà, pour faire cette nouvelle tâche, voilà ce qu'il faut. Et ça va nous donner un montant. Et après, qu'il nous donne un prix de revient qu'on soumet au client.
C'est-à-dire que le montant que vous allez avoir, vous mettez votre marge dessus avant de montrer, de discuter de ça avec la mission de contrôle.
Bien sûr.
OK.
Et donc, on soumet à la mission de contrôle qui elle aussi va regarder. Va soumettre aussi au client, c'est-à-dire le maître d'ouvrage délégué. Et celui-ci va valider ou pas. Il va faire une proposition. Si elle est d'accord, elle va valider. Sinon, elle va proposer un prix. Après, si on est... En fait, c'est des négociations après. C'est des négociations et puis on s'entend sur un prix donné, quoi.
Un prix qui arrange
Qui
tout le
arrange
monde.
tout le monde. Et puis après, c'est un ordre de service. On appelle ça comme c'est un courrier ou bien un ordre de service qui sort pour dire voilà, ce prix-là, on fait ça à ce montant.
OK. Donc, l'étude de prix, c'est un tout en réalité. On étudie, on fait un budget avant de commencer le chantier. Lorsque le chantier est en cours, on fait des contrôles budgétaires réguliers.
Oui, c'est ça.
Et à la fin du chantier, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait particulièrement ou bien ça se passe comment?
À la fin du chantier, on fait un budget, on fait un point global de tous les budgets, enfin des dépenses qu'on regarde par rapport au budget initial, comment est-ce que le chantier s'est comporté. Si le chantier est resté dans le budget, ça va, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le chantier a dépassé, on dira que voilà. Mais il faut qu'on explique quoi. Dans tous les cas, s'il y a un dépassement, il faut expliquer. S'il n'y a pas de dépassement, il faut expliquer. Il y a la raison, parce
Ah
que
ben, s'il y a un dépassement, il faut expliquer, c'est-à-dire
les raisons du dépassement.
trouver le coupable ou bien quoi.
Non. D'abord, le premier coupable, c'est le chef de projet. Voilà. Maintenant, c'est lui maintenant qui va expliquer pourquoi il y a eu ce dépassement. Va donner les raisons. Ça peut ne pas être dépendant de lui. Ça peut être une cause externe. Tu vois. Donc, ça, il y a plusieurs causes. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles il y a eu ce dépassement-là.
D'accord. Comme il peut être responsable aussi, ça arrive.
Bah,
Est-ce que tu es déjà tombé sur un cas comme ça? Ou c'est le directeur de projet qui n'a pas su gérer son projet?
bah, jusque-là, non. J'ai pas eu ce cas-là. Bon, mais le cas où j'ai eu, c'était que le directeur de projet n'arrivait pas à vendre à tout ce qu'il exécutait, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à faire attacher. Bon, ça, il va falloir expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire, normalement, à chaque fin du mois, on fait un point des travaux exécutés. Voilà, les travaux exécutés par l'entreprise et validés par la mission de contrôle. Et ce point-là, ça va faire l'objet d'un décompte et qui va être payé à l'entreprise. Voilà, par le client. Chaque fin de mois, on fait ce point-là. Maintenant, nous, avec le
D'accord.
système qu'on a mis en place, ça permettait d'avoir chaque jour les quantités exécutées, même si c'est pas trop réel, réel, mais au moins c'est plus proche de la réalité à 90%. Plus proche de la réalité. Maintenant, on regarde à la fin du mois aussi si les quantités exécutées ont toutes été attachées par le chef de projet et son équipe. Maintenant, dans ce cas de figure, on a trouvé que le chef de projet n'arrivait pas vraiment à attacher tous les travaux et on avait vraiment un gros écart. Il fallait justifier. Mais bon, comme il n'a pas su justifier, et puis bon, les raisons qu'il évoquait n'étaient pas vraiment fondées. Donc, ça lui a coûté sa place, quoi.
D'accord, c'est-à-dire, en termes de débroussement, on doit faire 5 000 mètres carrés. Vous faites 3 000 mètres carrés et puis le chef de projet facture 2 000 mètres carrés.
Non, c'est-à-dire,
C'est un truc comme ça ou bien?
j'explique, que si, selon ses rapports journaliers,
Oui.
il a exécuté 5 000 mètres carrés.
Oui.
Voilà. Donc, normalement, a priori, il devrait pouvoir tout attacher, les 5 000 mètres carrés. Mais il arrive que
C'est ça.
lui, il a pu faire attacher peut-être 2 000 mètres carrés. Maintenant, les 3 000 mètres carrés, il faut qu'il explique.
D'accord.
Ça peut ne pas être de sa faute. 3 000 mètres carrés, peut-être que c'est le mois d'après, ils vont prendre. Ou bien, il y a une réserve qu'il fallait lever d'abord avant de prendre ça. Il peut avoir ses raisons. Mais non, lui, dans ce cas, il ne savait pas où c'était. Il n'arrivait pas vraiment à expliquer cet écart. Du coup, voilà.
D'accord. Non, en fait, c'est-à-dire que la collecte d'informations journalières, les rapports journaliers, c'est ce qui vous permet vraiment de suivre, en fait.
Exactement. Exactement.
Donc, normalement, avec ça, il ne devrait pas avoir de problème. Mais bon, après, j'imagine que sur le chantier, c'est une autre histoire. Il y a
Voilà.
ce que vous faites et puis il y a ce que la mission de contrôle décide de
C'est
payer.
ça.
Bon, bien sûr, de manière justifiée,
C'est
on ne
ça.
va pas de manière arbitraire dire je ne paye pas
Non,
ça.
il ne peut pas. Donc, ça. Après, c'est pourquoi on dit toujours le directeur de travaux, c'est un commercial. Hein. Un directeur de projet, c'est un commercial. Il faut savoir vendre.
Oui, j'imagine.
Voilà.
Après l'étude de prix, Ou bien tu fais toujours des études de prix actuellement?
Ben non, j'ai changé aussi. Mais toujours dans le même métier, j'ai fait 3 ans en études de prix.
Tu as été débauché encore ou bien tu es toujours dans la même
Non, je
entreprise?
suis dans la même entreprise.
Ah, ok,
J'ai pas
d'accord.
été débauché. J'ai fait 3 ans d'études de prix, contrôle aussi.
Excuse-moi, avant de continuer, tu as fait à peu près combien? C'est ce que tu disais, 3 ans d'études de prix, c'est
Ça fait
ça?
3 ans
Ok.
d'études de prix et puis suivi budgétaire. Et bien là, je suis devenu, je suis passé à autre chose, je suis les travaux maintenant. Je suis conducteur de travaux actuellement, je suis un projet. Et voilà,
Oui.
ma tâche est de faire toujours le suivi, de contrôler, de voir si, d'abord, ce que j'exécute là, si ça ne dépasse pas le budget. Parce que là aussi, il faut que je contrôle. Je me contrôle moi aussi avant qu'on vienne me contrôler.
Oui, bien sûr, tu seras contrôlé, mais pour éviter que tu aies des soucis, il faut que, à ton avis, tout soit, de ton côté, tout soit OK.
Exactement. Il faut que ça soit OK d'abord technique, en termes de qualité, coût et délai. Voilà. C'est les trois éléments là, qui nous guident ici, quoi. Il faut suivre ça.
Les trois paramètres
Trois,
de la gestion de tout
c'est
projet.
ça, carrément. C'est ça. Ça, c'est la base en termes de gestion du projet. Les trois paramètres. Et qualité, coût, délai. Voilà. Donc là, on vient de démarrer un projet qu'on est en train de. Ça va doucement, doucement, mais bon. Ça va. On essaie de s'organiser, on essaie de mettre les choses en place et on essaie d'avancer dans ce sens.
Ben, en tant que conducteur de travaux, c'est quoi exactement une journée type?
La journée type d'un compteur de travaux. Bon. Très tôt le matin, tu
Ou
sors.
bien il n'y a pas de journée type?
Non, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas une journée type, mais il y a des choses qui se répètent.
Oui.
Notamment la mise en place des ateliers, parce que déjà, les ateliers, c'est les postes de travail. Voilà. Voilà. Donc, la mise en place des hommes et des matériels pour l'exécution des tâches, chaque jour, et très tôt le matin, tu pars, tu vérifies si tout le monde est en place selon l'organisation donnée, selon le programme donné à la veille. Si c'est OK, s'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de manque de moyens, s'il y en a, c'est de remonter l'information pour que la direction de travaux, la direction de projet puisse trouver le moyen. Parce que le conducteur de travaux, c'est celui qui pousse son équipe, qui organise son équipe, qui met les moyens à disposition de son équipe pour atteindre un rendement donné. Et ce rendement qui est plus ou moins fixé par lui et son directeur de travaux, afin de rester dans le budget, ou bien de faire plus. Voilà. Et puis après, c'est tout est une question de planification. C'est planification, suivi budgétaire aussi. Parce que là, on ne sait pas combien payer un contrôle de gestion, mais il faut se faire suivre aussi. Il faut suivre tout ça pour voir si vraiment on est efficient dans ce qu'on fait.
D'accord. Le poste de conducteur de travaux, est-ce que c'est pareil que le poste d'ingénieur de travaux que tu occupais dans les 2 premières entreprises?
C'est plus ou moins pareil. C'est plus ou moins pareil. Mais d'abord, l'ingénieur de travaux, on appelle celui. Un ingénieur de travaux, c'est celui qui n'a pas encore d'expérience, en fait. Enfin, j'ai dit qu'il est encore dans ses débuts. Ingénieur de travaux,
D'accord.
voilà. Maintenant, après, tu passes compteur de travaux. Parce qu'avec l'expérience, tu arrives à organiser, gérer, manager, tout ça. C'est vrai que l'ingénieur de travaux, c'est plus ou moins ce que je faisais en tant qu'ingénieur de travaux. Mais là, c'est peut-être avec l'expérience, ça change de nom, quoi.
D'accord. Tu as eu à faire un MBA en gestion de projet avant d'intégrer la boîte où tu es actuellement. La question que je me pose, est-ce que ce MBA a eu un plus dans le volet études de prix que tu faisais? Ou bien tu penses que c'est maintenant que ce MBA-là va t'apporter un plus?
Je pense que c'est maintenant, avec les outils que ce MBA m'a donné là. C'est maintenant, c'est plus surtout en termes de planification, tout ça. Maintenant, voilà. Sinon, quand j'étais ingénieur d'études de prix, ça, c'était pas, on fait pas ça au MBA, on fait pas ça. Mais peut-être c'est dans l'organisation, dans la gestion des hommes et du matériel sur le terrain, là. C'est là où le MBA va intervenir en termes de management des hommes, management du personnel, tout ça.
D'accord. Donc, conducteur de travaux, ça revient à peu près à la même chose, hein, faire
Voilà.
des planifications, s'assurer que tout se passe bien et tout.
OK, Aïdara, ce fut un plaisir. On tend vers la fin de cet épisode. J'avais une dernière, une ou deux, j'ai encore une ou deux questions à te poser, mais ce n'est pas lié au domaine, mais lié à toi-même. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu étais en IE qui t'aurait permis de, je sais pas, d'être meilleur ingénieur?
Quand j'étais en IE,
Oui, en première année d'ingénieur.
wow, c'est une belle question. Une colle.
Non, tu c'est pas une colle, tu réponds comme tu veux. On va faire comme McDonald's, venez comme vous êtes.
D'accord.
Ça peut être quelque chose qui n'est pas vraiment lié au métier, hein. Tu aurais aimé savoir que la lecture était bonne pour l'être humain. Tu aurais aimé savoir que le management, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Ça peut être tout, au fait.
J'aurais aimé savoir que, enfin, j'allais me dire, moi, en ayant de bosser en anglais, de beaucoup m'améliorer en anglais. Bon, ça, je suis en train de me rattraper dans ce sens-là, actuellement. Parce que c'est très important, quoi.
C'est le deuxième
Parce que
épisode
même,
et c'est la deuxième fois que la même chose arrive.
ah, d'accord. Bon, parce que là, c'est important. Parce que moi, le logiciel dont je parle actuellement, et puis le logiciel que j'utilise actuellement, la plupart, au début c'est en français, après c'est en anglais, quoi. C'est des logiciels développés par les Français, mais ils font recevoir les manuels en anglais.
Oui, parce que après l'anglais, c'est la langue qui est, je pense, après le chinois, et si je me trompe pas, la langue la plus parlée, donc.
C'est
Quand
ça.
ton produit est en anglais, tu as plus de chances que tout le monde l'utilise que quand il est en français.
C'est ça. Moi, je pense que c'est de m'améliorer en anglais et puis d'être mieux organisé.
D'accord. Je
Ouais.
pense que ça pourrait intéresser les élèves ingénieurs et les débutants de savoir ça. Tout compte fait, il n'est jamais trop tard pour se mettre à pour changer quelque chose.
Ça, c'est ça.
Donc, ce fut vraiment un plaisir de te recevoir. J'ai beaucoup apprécié le partage qu'on a eu.
Ah,
J'espère
c'est
que
le
ça
plaisir de
sera
partager.
pareil pour les auditeurs aussi.
Le
Donc,
plaisir
si
vraiment
tu as un dernier
partagé.
mot de fin, il est la bienvenue.
Je tenais à te remercier déjà pour cette initiative, parce qu'elle est vraiment bonne. C'est vrai que nous, quand on était encore à l'école, on n'avait pas eu cette chance-là et puis cette opportunité d'en savoir un peu plus dans le monde du travail. Et je pense qu'avec ce podcast-là, ce podcast, les jeunes en sauront plus davantage sur leur métier. Parce que souvent là, on se retrouve, on vient dans le monde du travail, on rêve et là, on se retrouve devant un mur. On ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense que déjà avec ce genre d'idées, ce genre d'initiatives, les jeunes générations, les futures générations sauront choisir leur métier et puis ils pourront mieux s'orienter dans ce domaine. Voilà.
D'accord. Vraiment, c'est gentil. J'espère
Bon.
qu'on continuera de produire du contenu de qualité pour que ça puisse vraiment être profitable à tout le monde, quoi.
Ouais, d'accord.
D'accord. En tout cas, merci bien et à la prochaine. J'espère
Bah.
te recevoir encore sur le podcast. On ne sait jamais.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.